Je vais simplement rendre hommage à un grand chrétien, un que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, Thomas Merton. À la fin de sa vie, il avait rencontré différents grands maîtres tibétains, dont Kalo Rinpoche, dont je suis le disciple, et Chachal Rinpoche. Bon, il y a des histoires croustillantes, je vais les passer pour l'instant. Question de temps. Mais juste en entendant la question que le Dalai Lama posait à Don Laurence, Chachal Rinpoche avait demandé à Thomas Merton aussi, expliquez-moi un peu la réincarnation. Chez nous, au Tibet, des gens comme ça qui reprennent vie, on en a plein. On appelle ça des zombies. Et alors, pourquoi vous en faites toute une histoire? Mais là, c'est pour... Thomas Merton a écrit tout à la fin de sa vie un article remarquable qui se nomme, je crois que c'est « We don't want the observer ». Nous n'avons pas besoin de l'observateur. Nous n'avons pas besoin de l'observateur. Et c'est dans cette interaction qu'il eut, et aussi avec Thumba Rinpoche, je pense que cette vision est née. Et c'est le cœur de la contemplation. Nous n'avons pas besoin de l'observateur. Et cette absence d'observateur, alors, est le logos, l'intelligence qui se comprend en elle-même. Alors, ça peut se tourner de bien des façons, l'intelligence réflexive, mais qui se comprend d'elle-même en elle-même, qui se comprend en soi. Dans la non-dualité. Et alors, il y a eu des incarnations, des prophètes, des avatars, des nirmanakaya. La parole, le speaker de ce logo peut prendre différents noms dans différentes traditions. Le point important, c'est de ne pas faire de copyright sur Dieu. Ou de faire de monopole, si vous voulez. Voilà, et dans la contemplation, au-delà de l'observateur, tous se rejoignent, et c'est aussi la contemplation de la présence d'instantanéité à vivre à chaque instant et vers laquelle cheminer doucement.
Alors, si je peux dire quelques mots, c'est de dire qu'il y a de toute évidence une différence entre le dialogue inter-théologie et le dialogue inter-spiritualité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de dialogue inter-théologie.
That's what the Pope says.
Et c'est naturel. Comme disait mon ami Chouraki, qui est mort maintenant, il disait qu'un jour, enfin une histoire qui se raconte dans le milieu judaïque, il disait qu'un jour, il y a Moïse qui est revenu et qui est rentré dans un endroit où il y avait des théologiens qui étaient en train de discuter. Ils sont en train de discuter de la Torah, et ainsi de suite. Il écoutait avec beaucoup de concentration, et quand il est sorti, il a dit, mais ces gens disent des choses très intéressantes, mais de quoi parlent-ils? Mais il y a quelque chose, peut-être, que la spiritualité permet de créer dans le dialogue interreligieux aussi. Moi-même, je l'ai un peu expérimenté, et en entendant ce qu'on a beaucoup échangé ces derniers temps, ça m'a fait repenser à cela. Lorsque j'ai travaillé pour faire un livre qui s'intitule Jésus dans la tradition soufie. Et Jésus est évidemment ce que parfois on ne sait pas, mais ça aussi c'est une question parfois de méconnaissance entre les traditions. Jésus est une personnalité centrale de l'islam, ainsi que Marie. Il y a un chapitre du Coran qui s'appelle Marie. Jésus, dans le Coran, décrit comme le Verbe de Dieu, comme. Il y a beaucoup, beaucoup de proximité, il y a beaucoup de différences aussi sur certains points. Mais en tout cas, c'est une personnalité fondamentale de l'islam, comme Moïse, comme Abraham, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait de réfléchir à cette fonction de Jésus du point de vue du soufisme, je me suis rendu compte que du point de vue du soufisme, on pouvait percevoir d'une façon très naturelle et très directe et très simple Jésus comme un maître spirituel. Et tous les évangiles peuvent être lus d'une façon tout à fait naturelle dans ce sens. Le rapport de Jésus avec les apôtres est un rapport d'un maître spirituel avec ses disciples. Tout cela, je vous l'ai dit en parabole. Il y a un processus d'accompagnement, un processus de guérison spirituelle, un processus de réalisation, tout à fait évident, une sorte d'amour spirituel qui naît dans le cœur, la voix du cœur qui est fondamentale. Et je dirais presque que on peut lire le message ou la fonction du maître spirituel de Jésus comme une compensation au fait que la loi devenait une sorte, ou la théologie, une sorte de la théologie judaïque de l'époque, une sorte de l'horizon du pensable, de la religion. Tout est devenu théologie. C'est les docteurs de la théologie, c'est les docteurs de la loi, et non pas les spirituels qui représentaient, qui portaient cette religion. Donc, un peu comme dans le soufisme, comme dans ce que font le soufisme au cœur de l'islam, ce qui vient sans cesse redonner du sens à la religion par la spiritualité. Autrement, la loi devient prédominante et c'est une autre forme d'idolâtrie dans laquelle on tombe. Des sortes de dogmatisme théologique qui devient prédominant. Or, je me suis rendu compte lorsque j'ai fait ce travail et lorsque j'ai eu l'occasion d'en faire la présentation, invité par les éditions Albin Michel à en faire des causeries ou des conférences sur ce sujet, où j'ai rencontré beaucoup de publics chrétiens, j'étais toujours très surpris et très intéressé qu'à la fin, on vient me dire, écoutez, on est très heureux de percevoir cette fonction de Jésus en tant que maître spirituel. Parce que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on le perçoit d'ordinaire. Ça me paraissait tellement naturel, puisque tous les évangiles ne sont qu'à propos de cela. C'est la relation Jésus et les apôtres, c'est aussi Bouddha et ses disciples, c'est le prophète et ses compagnons, c'est essentiellement un maître spirituel. Et donc, ça m'a posé des questions, alors même que pour moi, c'est ce qui définissait presque la nature spécifique et même la fonction spécifique de Jésus, y compris vis-à-vis de l'époque où il est né. Et c'est pourquoi il est venu, pour spiritualiser la religion. Et donc, je comprends que on s'est éloigné de cette fonction par peut-être un excès d'élaboration théologique qui est venu par la suite et qui a pris un peu le dessus. Cette fonction primitive a été un peu oubliée. Il y a toute un ensemble d'élaborations théologiques qui sont devenues prédominants par la suite. Alors, la question devient beaucoup plus, est-ce qu'on croit ceci, est-ce qu'on pense cela, est-ce qu'il faut croire ceci, il faut croire cela. Et on a oublié cette fonction qui est essentielle, qui est celle de l'accompagnement de disciples vers une voie de la réalisation, vers une voie de la guérison, vers une voie de la maturation, vers une voie de la sagesse, n'est-ce pas, de l'accomplissement spirituel. Et je pense que c'est probablement l'intérêt d'une démarche comme celle de Lord Freeman actuellement et de cette démarche-là, c'est que on vient à cette réflexion qu'il y a une dimension qui a été oubliée en route. Et qu'il faut revenir donc à la réalité de ce que nous sommes et de quoi nous partons. Les disciples sont là avec leurs problèmes. On ne peut pas leur dire simplement, vous avez été sauvés, ou bien, vous êtes coupable de quelque chose, on ne sait pas trop bien de quoi. Toutes ces choses-là, je veux dire, ils viennent avec ce qu'ils sont, ils viennent avec leurs difficultés, avec leur culpabilité, avec leurs blessures. Et c'est à partir de ce que nous sommes qu'on fait un travail pour qu'il y ait une thérapie spirituelle, pour qu'il y ait une réalisation spirituelle, pour qu'ils trouvent leur chemin, un chemin de réalisation. C'est pas de croire ceci ou de croire cela, c'est de se transformer et finalement d'accomplir notre humanité. Et moi, je pense que c'est dans cette dimension-là, et c'est ce que j'entends derrière des questions. Après, on peut avoir tendance à tomber dans un débat théologique, mais les questions qui sont posées probablement renvoient à cette réalité fondamentale. Et qu'à partir du moment où on reprend les choses sous ce biais-là, eh bien, c'est cette spiritualité, c'est cette sagesse, cette compréhension spirituelle qui va sans doute redonner à des questions peut-être théologiques leur juste place, à ne pas se laisser complètement fermer dans dans des conceptions théologiques closes, mais à leur redonner leur juste place dans un processus de réalisation et de guérison. Voilà un petit peu ce que je.
If we had more time, I would ask you what you think of the resurrection.
Tout le monde a compris la question.
The next life.
Next life.
Nous étions censés avoir une pratique contemplative commune. Le temps ne nous le permet pas parce qu'on nous attend à la salle à manger. Par contre, on va réintroduire ça cet après-midi. Donc, ce que je vous suggère, juste vraiment tout un chacun, prenant 2, 3 minutes d'une façon absolument tranquille et silencieuse pour intégrer ce que nous avons entendu avant de partir à la salle à manger. Et ensuite, peut-être, tu quittes la pièce en silence. Oui, donc on va, pour pouvoir permettre une période contemplative en commun ici dans cette pièce, On va sauter à 13h45 la méditation marché silencieuse. Je crois que Lundrup en a conduit une hier, donc aujourd'hui on va la sauter et on va se trouver ici à 14h, ce qui vous donne le temps de déjeuner, et on fera une pratique commune autour de la dernière séance de l'après-midi. Donc prenez 2-3 minutes de silence et quittez au moins cette pièce en silence aussi.